Isabelle Eberhardt, le Medda, 1903. Dans les compartiments de troisième classe, étroits et délabrés, la foule en burnous terreux s'entasse bruyamment. Le train est déjà parti et roule, indolent, sur les rails surchauffés que les Bédouins ne sont pas encore installés. C'est un grand brouhaha joyeux. Ils passent et repassent par-dessus les cloisons basses, ils calent leurs sacs et leurs baluchons en loques, s'organisant comme pour un très long voyage. Habitués aux grands espaces libres, ils s'interpellent très haut, rient, plaisantent, échangent des bourrades amicales. Enfin, tout le monde est casé dans l'étouffement croissant des petites cages envahies à chaque instant par des tourbillons de fumée lourde chargés de suie noire et gluante. Un silence relatif se fait. Des baluchons informes, des sacs, émergent les djouaks, les gazbas, les benadirs, et le haïta, tout l'orchestre obligé, les pèlerinages arabes. Alors, dans le compartiment du centre, un homme se lève, jeune, grand, robuste, fièrement drapé dans son burnous dont la propreté blanche contraste avec le ton terreux des autres. Son visage plus régulier, plus beau, d'homme du sud est bronzé, tanné par le soleil et le vent. Ses yeux, longs et très noirs, brillent d'un singulier éclat sur ses sourcils bien arqués. De sa main effilée d'oisif, il impose silence. C'est El Hadj Abdelkader, le Medda. Il va chanter et tous les autres, à genoux, sur les banquettes, se penchent sur les cloisons pour l'écouter. Alors, tout doucement, en sourdine, les djouaks et les gazbas commencent à se distiller une tristesse lente, douce, infinie, tandis que, discrètement encore, les benadirs battent la mesure monotone. Les roseaux magiques se taisent et le Medda commence sur un air étrange, une mélopée sur le sultan des saints, Sidi Abdelkader Jilani de Bagdad. Guéris-moi, ô Jilani, flambeau des ténèbres. Guéris-moi, ô la meilleure des créatures. Mon cœur est en proie à la crainte, mais je fais de toi mon rempart. Sa voix, rapide sur les premiers mots de chaque vers, termine en traînant comme une plainte. Enfin, il s'arrête sur un long cri triste, repris aussitôt par la haïta criarde qui sanglote et qui fait rage éperdue comme en désespoir. Et c'est de nouveau le bruissement d'eau sur les cailloux ou de brise dans les roseaux de djouak et des gazbars qui reprend quand se tait la haïta aux accents sauvages. Puis la voix sonore et plaintive du rhapsode arabe. Les auditeurs enthousiastes soulignent certains passages par des « Allah, Allah » admiratifs. Et le train, serpent noir, s'en va à travers la campagne calcinée, emportant les ziyars, leur musique et leur gaieté naïve vers quelques blanches koubas de la terre africaine. Vers le nord, les hautes montagnes fermant la Medjoua murent l'horizon. De crête en crête, vers le sud, elle s'abaisse peu à peu jusqu'à la plaine immense du Houna. Au sommet d'une colline élevée, sur une sorte de terrasse crevassée et rouge, sans un arbre, sans un brin d'herbe, s'élève une petite koubba, toute laiteuse, esselé dans toute la désolation du chaos de coteaux arides et âpres où la lumière incandescente de l'été jette des reflets d'incendie. En plein soleil, une foule se meut houleuse, au groupe sans cesse changeant et d'une teinte uniforme d'un fauve très clair. Les Bédouins vont et viennent avec de grands appels chantants autour du marcam élevé là en l'honneur de Sidi Abdelkader, le seigneur des hauts lieux. Sous des tentes en toile bise déchirée, des kabyles en blouse et turban débitent du café mal moulu dans des tasses ébréchées. Attirés par le liquide sucré, sur les visages en moiteur, sur les mains, dans les yeux des consommateurs, les mouches s'acharnent, exaspérées par la chaleur. Les mouches bourdonnent et les bédouins discutent, rient, se querellent, sans se lasser comme si leur gosier était d'airain. Ils parlent des affaires de leur tribu, des marchés de la région, du prix des denrées, de la récolte, des petits trafics rusés sur les bestiaux, des impôts à payer bientôt. À l'écart, sous une grande tente rayée et basse, les femmes gazouillent, invisibles mais attirantes, toujours fascinantes par leur seul voisinage pour les jeunes hommes de la tribu. Ils rôdent le plus près possible de la bienheureuse Bittelscha, et quelquefois un regard chargé de haine échangé avec une sourde menace de la voix ou du geste révèle tout un mystérieux roman qui se changera peut-être bientôt en drame sanglant. À demi couché sur une natte, les yeux mi-clos, le Medda se repose. Très apprécié pour sa belle voix et son inépuisable répertoire, El Hadj Abdelkader ne se laisse pas mener par l'auditoire. Indolent et de manière douce, il sait devenir terrible quand on le bouscule. Il se considère lui-même comme un personnage d'importance et ne chante que quand cela lui plaît. Originaire de la tribu, héréditairement vicié par les séculaires prostitutions, des Ouled Nail, vagabond dès l'enfance, accompagnant des Medda qui lui avaient enseigné leur art, El Hadj Abdelkader avait réussi à aller au pèlerinage des villes saintes dans la suite d'un grand marabout pieux. À droite et égoïste, mais d'esprit curieux, il avait, pour revenir, pris le chemin des écoliers. Il avait parcouru la Syrie, l'Asie mineure, l'Égypte, la Tripolitaine et la Tunisie, recueillant par-ci par-là les histoires merveilleuses, les chants pieux, voire même les cantilènes d'amour et de néphra affectionnés des Bédouins. Il sait dire ses histoires et ses propres souvenirs avec un art inconscient. Illettré, il jouit parmi les Tolba eux-mêmes d'un respect général, rendant hommage à son expérience et à son intelligence. Indolent, satisfait de peu, aimant par-dessus tout ses aises, le Medda ne voulut jamais tremper dans les louches histoires de vol qu'il a côtoyées parfois, et n'a à se reprocher que les aventures souvent périlleuses que lui fait poursuivre sa nature de jouisseur, d'amoureux, dont la réputation oblige. En tribu, le coq parfait, l'homme à femme risquant sa tête pour les belles difficilement accessibles, jouit d'une notoriété flatteuse, et malgré les mœurs, malgré la jalousie farouche, ce genre d'exploit jouit d'une indulgence relative à condition d'éviter les conflits avec les intéressés, et surtout le flagrant délit, presque toujours fatal. Pour l'étranger, cette quasi-tolérance est bien moindre, et l'auréole de courage du Medda se magnifie encore de ce surcroît de danger et d'audace. Aussi, durant toute la fête, les yeux du nomade cherchent-ils passionnément à découvrir, sous le voile de mystère de la tente des femmes, quelques signes à peine perceptibles, prometteurs de conquête. Après les danses, les luttes, la longue station autour du Medda, dont la robuste poitrine ne se lasse pas, après les quelques sous de la ziara donnée à Loukil, qui répond par des bénédictions, les Bédouins, là, s'endorment très tard, roulés dans leur burnou, à même la bonne terre familière, refusent leur confiante misère. Peu à peu, un grand silence se fait, et la lune promène seule sa clarté rose sur les groupes endormis sur la terre nue. C'est l'heure où l'on peut voir un fantôme fugitif descendre dans le lit desséché de l'oued, où, assis sur une pierre, le Medda attend dans la grisante incertitude. Comment sera-t-elle l'inconnue qui, dessous l'étoffe lourde de la tente, lui fit au soleil couchant un signe de la main? Sur des chariots, sur des mulets, à pied ou poussant devant eux de petits ânes chargés, les hiardes, Sidi Abdelkader, s'en vont, et arrivés au pied de la colline, se dispersent pour regagner leur douar, cachés par là-bas dans le flamboiement morne de la campagne. Et le Medda, lui, prend au hasard une piste quelconque, son maigre paquet de hardes en sautoir attaché d'une ficelle. Droit, la tête haute, le pas lent, il s'en va vers d'autres koubas, vers d'autres troupes de ziyars, qu'il charmera du son de sa voix et dont les filles l'aimeront dans les nuits complices. Insouciant, couchant dans les cafés maures où on l'héberge et où on le nourrit pour quelques couplets ou quelques histoires, El Hadj Abdelkader s'en va à travers les tribus bédouines ou kabyles, sédentaires ou nomades, remontant en été vers le nord, franchissant en hiver les hauts plateaux glacés, pour aller dans les ports souriants du Sahara, Biskra, Boussada, Tiaret. De marché en marché, de tam en tam, il erre ainsi, heureux, en somme, du bonheur fugitif, peu compliqué des vagabonds nés. Mais un jour vient, insidieux, inexorable, où toute cette progression à travers des petites joies successives, faisant oublier les revers, s'arrête. La taille d'Eladj Abdelkader s'est cassée, sa démarche est devenue incertaine, l'éclat de ses yeux de flamme s'est éteint. Le beau Medda est devenu vieux. Alors, mendiant aveugle, il continue d'errer, plus lentement, conduit par un petit garçon quelconque, recruté dans l'armée nombreuse, essaimé sur les grandes routes. Le vieux demande l'aumône et le petit tend la main. Parfois, pris d'une tristesse sans nom, le vieux vagabond se met à chanter d'une voix chevrotante des lambeaux de couplets, ou à annonner des bribes des belles histoires de jadis, confuses, brouillées dans son cerveau finissant. Un jour, des bédouins qui s'en vont au marché trouvent sur le bord de leur chemin le corps raidi du mendiant, endormi dans le soleil, souriant en une suprême indifférence. « Allah irrebou !» disent les musulmans qui passent sans un frisson. Et le corps achève de se raidir sous la dernière caresse du jour naissant, souriant avec la même joie mystérieuse à l'éternelle vie et à l'éternelle mort, aux fleurs du sentier et aux cadavres du Medda. Boussada, février 1903.